L'Iliade, chant 19e. Éos au péplos couleur de safran, sortez des flots d'Océanos pour porter la lumière aux immortels et aux hommes. Et Thétis parvint au Neph avec les présents du dieu, et elle trouva son fils bien-aimé, entourant de ses bras Patroclos et pleurant amèrement. Et autour de lui, ses compagnons gémissaient. Mais la déesse parut au milieu d'eux, prit la main d'Achilleus et lui dit: mon enfant, malgré notre douleur, laissons-le, puisqu'il est mort par la volonté des dieux. Reçois d'Héphaïstos ses armes illustres et belles, telles que jamais aucun homme n'en a porté sur ses épaules. Ayant ainsi parlé, la déesse les déposa devant Achilleus, et les armes merveilleuses résonnèrent. La terreur saisit les Myrmidones, et nul d'entre eux ne put en soutenir l'éclat, et ils tremblèrent. Mais Achilleus, dès qu'il les vit, se sentit plus furieux, et sous ses paupières, ses yeux brûlés, terribles et tels que la flamme. Il se réjouissait de tenir entre ses mains les présents splendides du dieu, et après avoir admiré, plein de joie, ce travail merveilleux, aussitôt il dit à sa mère ces paroles ailées: ma mère, certes, un dieu t'a donné ces armes qui ne peuvent être que l'œuvre des immortels, et qu'un homme ne pourrait faire. Je vais m'armer à l'instant, mais je crains que les mouches pénètrent dans les blessures du brave fils de Ménoïtios, y engendrent des vers, et souillant ce corps où la vie est éteinte, corrompent tout le cadavre. Et la déesse Thétis au pied d'argent lui répondit: mon enfant, que ces inquiétudes ne soient point dans ton esprit. Loin de Patroclos, j'écarterai moi-même les essaims impurs des mouches qui mangent les guerriers tués dans le combat. Ce cadavre resterait couché ici toute une année, qu'il serait encore sain, et plus frais même. Mais toi, appelle les héros achéens à l'agora, et renonçant à ta colère contre le prince des peuples Agamemnon, hâte-toi de t'armer, et revêt-toi de ton courage. Ayant ainsi parlé, elle le remplit de vigueur et d'audace, et elle versa dans les narines de Patroclos l'ambroisie et le nectar rouge, afin que le corps fût incorruptible. Et le divin Achilleus courait sur le rivage de la mer, poussant des cris horribles et excitant les héros achéens. Et ceux qui auparavant restaient dans les nefs, et les pilotes qui tenaient les gouvernails, et ceux mêmes qui distribuaient les vivres auprès des nefs, tous allaient à l'agora, où Achilleus reparaissait, après s'être éloigné longtemps du combat. Et les deux serviteurs d'Arès, le belliqueux Tydéide et le divin Odysseus, boitant et appuyés sur leurs lances, car ils souffraient encore de leurs blessures, vinrent s'asseoir au premier rang. Et le roi des hommes, Agamemnon, vint le dernier, étant blessé aussi, Coanthénoride l'ayant frappé de sa lance d'airain dans la rude mêlée. Et quand tous les Achéens furent assemblés, Achilleus aux pieds rapides, se levant au milieu d'eux, parla ainsi: Atréides, n'eût-il pas mieux valu nous entendre, quand plein de colère, nous avons consumé notre cœur pour cette jeune femme? Plutôt Dieu que la flèche d'Artémis l'eût tuée sur les nefs, le jour où je la pris dans l'Hyrnessos bien peuplée. Tant d'Achéens n'auraient pas mordu la vaste terre sous des mains ennemies, à cause de ma colère. Ceci n'a servi qu'à Hector et aux Troyens, et je pense que les Achéens se souviendront longtemps de notre querelle. Mais oublions le passé, malgré notre douleur, et dans notre poitrine soumettons notre âme à la nécessité. Aujourd'hui, je dépose ma colère. Il ne convient pas que je sois toujours irrité. Mais toi, appelle promptement au combat les Achéens chevelus, afin que je marche aux Troyens, et que je voie s'ils veulent dormir auprès des nefs. Il courbera volontiers les genoux, celui qui aura échappé à nos lances dans le combat. Il parla ainsi, et les Achéens aux belles Cnémides se réjouirent que le magnanime Péléon renonçât à sa colère. Et le roi des hommes, Agamemnon, parla de son siège, ne se levant point au milieu d'eux. Ô cher héros d'Anaïn, serviteur d'Arès, il est juste d'écouter celui qui parle, et il ne convient point de l'interrompre, car cela est pénible, même pour le plus habile. Qui pourrait écouter et entendre au milieu du tumulte des hommes? La voix sonore du meilleur agorète est vaine. Je parlerai aux Péléides. Vous, Argiens, écoutez mes paroles, et que chacun connaisse ma pensée. Souvent, Les Achéens m'ont accusé, mais je n'ai point causé leurs maux. Zeus, la moire, Erinique hier dans les ténèbres, ont jeté la fureur dans mon âme, au milieu de l'agora, le jour où j'ai enlevé la récompense d'Achilleus. Mais qu'aurais-je fait? Une déesse accomplit tout, la vénérable fille de Zeus, la fatale Athée qui égare les hommes. Ses pieds aériens ne touchent point la terre, mais elle passe sur la terre des hommes qu'elle blesse, et elle n'enchaîne pas qu'eux. Autrefois, en effet, elle a égaré Zeus qui l'emporte sur les hommes et les dieux. Érée trompa le Cronide par ses ruses, le jour où Alcménée allait enfanter la force héracléenne, dans Thèbes aux fortes murailles. Et plein de joie, Zeus dit au milieu de tous les dieux, « Écoutez-moi, dieux et déesses, afin que je dise ce que mon esprit m'inspire. Aujourd'hui, Eileithyia, qui préside au douloureux enfantement, appellera à la lumière un homme de ceux qui sont de ma race et de mon sang, et qui commandera sur tous ses voisins. Et la vénérable Érée, qui médite des ruses, parla ainsi. Tu mens, et tu n'accompliras point tes paroles. Allons, Olympien, jure par un inviolable serment qu'il commandera sur tous ses voisins, l'homme de ton sang et de ta race, qui aujourd'hui tombera d'entre les genoux d'une femme. » Elle parla ainsi, et Zeus ne comprit point sa ruse, et il jura un grand serment dont il devait souffrir dans la suite. Et quittant à la hâte le fait de l'Olympos, Érée parvint dans Argos Achéenne, où elle savait que l'illustre épouse de Sthénélos Perséiade portait un fils dans son sein. Et elle le fit naître avant le temps, à 7 mois, et elle retarda les douleurs de l'enfantement et les couches d'Alcménée. Puis l'annonçant au crognon Zeus, elle lui dit, « Père Zeus, qui tient la foudre éclatante, je t'annoncerai ceci. L'homme illustre aîné qui commandera sur les Argiens, c'est Eurystheus, fils de Sthénélos Perséiade. Il est de ta race, et il n'est pas indigne de commander sur les Argiens. » Elle parla ainsi, et une douleur aiguë et profonde blessa le cœur de Zeus. Et saisissant Athée par ses tresses brillantes, il jura par un inviolable serment qu'elle ne reviendrait plus jamais dans l'Olympos et dans l'Ouranos étoilé, Athée, qui égare tous les esprits. Il parla ainsi, et la faisant tournoyer, il la jeta de l'Ouranos étoilé au milieu des hommes. Et c'est par elle qu'il gémissait, quand il voyait son fils bien-aimé accablé de travaux sous le joug violent de Eurystheus. Et il en est ainsi de moi. Quand le grand Hector au casque mouvant accablait les Argiens auprès des poupes des nefs, je ne pouvais oublier cette fureur qui m'avait égarée. Mais puisque je t'ai offensé et que Zeus m'a ravi l'esprit, je veux t'apaiser et te faire des présents infinis. Va donc au combat et encourage les troupes, et je préparerai les présents que le divin Odysseus, hier sous tes tentes, t'a promis. Ou si tu le désires, attends, malgré ton ardeur à combattre. Des héros vont t'apporter ces présents de ma nef, et tu verras ce que je veux te donner pour t'apaiser. » Et Achilleus, au pied rapide, lui répondit, « Très illustre Atréide, Agamemnon, roi des hommes, si tu veux me faire ces présents comme cela est juste, ou les garder, tu le peux. Ne songeons maintenant qu'à combattre. Il ne s'agit ni d'éviter le combat, ni de perdre le temps, mais d'accomplir un grand travail. Il faut qu'on revoie Achilleus au premier rang, enfonçant de sa lance d'airain les phalanges troyennes, et que chacun de vous se souvienne de combattre un ennemi. » Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi. « Bien que tu sois brave, ô Achilleus, semblable à un dieu, ne pousse point vers Ilios contre les Troyens, les fils des Achéens qui n'ont point mangé, car la mêlée sera longue, dès que les phalanges des guerriers se seront heurtées, et qu'un dieu leur aura inspiré à tous la vigueur. Ordonne que les Achéens se nourrissent de pain et de vin dans les nefs rapides. Cela seul donne la force et le courage. Un guerrier ne peut, sans manger, combattre tout un jour, jusqu'à la chute de Hélios. Quelle que soit son ardeur, ses membres sont lourds, la soif et la faim le tourmentent, et ses genoux sont rompus. Mais celui qui a bu et mangé combat tout un jour contre l'ennemi, plein de courage, et ses membres ne sont là que lorsque tous se retirent de la mêlée. Renvoie l'armée, et ordonne-lui de préparer le repas. Et le roi des hommes, Agamemnon, fera porter ses présents au milieu de l'agora, afin que tous les Achéens les voient de leurs yeux, et tu te réjouiras dans ton cœur. et Agamemnon jurera, debout, au milieu des Argiens, qu'il n'est jamais entré dans le lit de Briséis, et qu'il ne l'a point possédé, comme c'est la coutume au roi des hommes et des femmes. Et toi, Achilleus, apaise ton cœur dans ta poitrine. Ensuite, Agamemnon t'offrira un festin sous sa tente, afin que rien ne manque à ce qui t'est dû. Et toi, Atréide, sois plus équitable désormais. Il est convenable qu'un roi apaise celui qui l'a offensé le premier. Et le roi des hommes, Agamemnon, lui répondit : Laertiade, je me réjouis de ce que tu as dit. Tu n'as rien oublié, et tu as tout expliqué convenablement. Certes, je veux faire ce serment, car mon cœur me l'ordonne, et je ne me parjurerai point devant les dieux. Qu'Achilleus s'attende, malgré son désir de combattre, et que tous s'attendent réunis, jusqu'à ce que les présents soient à portée de mes tentes, et que nous ayons consacré notre alliance. Et toi, Odysseus, je te le commande et te l'ordonne. Prends les plus illustres des jeunes fils des Achéens, et qu'ils apportent de Ménèphe tout ce que tu as promis hier aux Péléides. Et amène aussi les femmes. Et Talthybios prépara promptement, dans le vaste camp des Achéens, le sanglier qui sera tué en offrande à Zeus et à Hélios. Et Achilleus au pied rapide, lui répondant, parla ainsi. Atréide Agamemnon, très illustre roi des hommes, tu t'inquiéteras de ceci quand la guerre aura pris fin, et quand ma fureur sera moins grande dans ma poitrine. Il gisent encore sans sépulture ce qu'a tué le Priamide Hector, tandis que Zeus lui donnait la victoire, et vous songez à manger. J'ordonnerai plutôt aux fils des Achéens de combattre maintenant, sans avoir mangé, et de ne préparer un grand repas qu'au coucher de Hélios, après avoir vengé notre injure. Pour moi, rien n'entrera auparavant dans ma bouche, ni pain, ni vin. Mon compagnon est mort. Il est couché sous ma tente, percé de l'airain aigu, les pieds du côté de l'entrée, et mes autres compagnons pleurent autour de lui. Et je n'ai plus d'autre désir dans le cœur que le carnage, le sang et le gémissement des guerriers. Et le sage Odysseus, lui répondant, parla ainsi. Ô Achilleus Péléide, le plus brave des Achéens, tu l'emportes de beaucoup sur moi, et tu vaux beaucoup mieux que moi par ta lance. Mais ma sagesse est supérieure à la tienne, car je suis ton aîné, et je sais plus de choses. C'est pourquoi, cède à mes paroles, le combat accable bientôt des hommes qui ont faim. Les reins couchent d'abord sur la terre une moisson épaisse, mais elle diminue quand Zeus, qui est le juge du combat des hommes, incline ses balances. Ce n'est point par leur ventre vide que les Achéens doivent pleurer les morts. Les nôtres tombent en grand nombre tous les jours. Quand donc pourrions-nous respirer ? Il faut, avec un esprit patient, ensevelir nos morts et pleurer ce jour-là. Mais ce que la guerre haïssable a épargné, qu'ils mangent et boivent, afin que, vêtus de l'airain indompté, ils puissent mieux combattre l'ennemi et sans relâche. Qu'aucun de vous n'attende un meilleur conseil, car tout autre serait fatal à qui resterait auprès des nefs des Argiens. Mais bientôt, marchons tous ensemble contre les Troyens dompteurs de chevaux, et soulevons une rude mêlée. » Il parla ainsi, et il choisit pour le suivre les fils de l'illustre Nestor, et Mégès Phileïde, et Thoas, et Mériones, et le Créontiade Lycomédès, et Mélanippos. Et ils arrivèrent aux tentes de l'Atréide Agamemnon. Et aussitôt Odysseus parla, et le travail s'acheva. Et ils emportèrent de la tente les 7 trépieds qu'ils avaient promis, et 20 splendides coupes. Et ils emmenèrent 12 chevaux, et 7 belles femmes habiles aux travaux, et la 8e fut Briséis aux belles joues. Et Odysseus marchait devant, avec 10 talents d'or qu'il avait pesés. Et les jeunes hommes d'Achée portaient ensemble les autres présents, et ils les déposèrent au milieu de l'agora. Alors Agamemnon se leva. Talthybios, semblable à un dieu par la voix, debout auprès du prince des peuples, tenait un sanglier dans ses mains. Et l'Atréide saisit le couteau, toujours suspendu auprès de la grande gaine de son épée. Et coupant les soies du sanglier, les mains levées vers Zeus, il les lui voua. Et les Argiens, assis en silence, écoutaient le roi respectueusement. Et suppliant, il dit, regardant le large Ouranos, qu'ils le sachent tous, Zeus le plus haut et le très puissant, et Gaïa, et Hélios, et les Érinies, qui sous la terre punissent les hommes par jure. Je n'ai jamais porté la main sur la Vierge Briseis, ni partagé son lit, et je ne l'ai soumise à aucun travail. Mais elle est restée intacte dans mes tentes. Et si je ne jure point la vérité, que les dieux m'envoient tous les maux dont ils accablent celui qui les outrage en se parjurant. » Il parla ainsi, et de l'air incruel, il coupa la gorge du sanglier. Et Taltibios jeta en tournant la victime dans les grands flots de la Blanche Mer, pour être mangée par les poissons. Et se levant au milieu des belliqueux Argiens, Achilleus dit : « Père Zeus, certes, tu causes de grands maux aux hommes. L'Atréide n'eut jamais excité la colère dans ma poitrine, et il ne m'eût jamais enlevé cette jeune femme contre ma volonté dans un mauvais dessein, si Zeus n'eût voulu donner la mort à une foule d'Achéens. Maintenant, allez manger afin que nous combattions. » Il parla ainsi, et il rompit aussitôt l'agora, et tous se dispersèrent, chacun vers sa nef. Et les magnanimes Myrmidones emportèrent les présents vers la nef du divin Achilleus, et ils les déposèrent dans les tentes, faisant asseoir les femmes et liant les chevaux auprès des chevaux. Et dès que Briseis, semblable à Aphrodite d'or, eut vu Patroclos percé de l'airain aigu, elle se lamenta en l'entourant de ses bras, et elle déchira de ses mains sa poitrine, son cou délicat et son beau visage. Et la jeune femme, semblable aux déesses, dit en pleurant : « Ô Patroclos, si doux pour moi, malheureuse, je t'ai laissé vivant quand je quittais cette tente, et voici que je te retrouve mort, prince des peuples. Pour moi, le mal suit le mal. L'homme à qui mon père et ma mère vénérables m'avaient donné, je l'ai vu devant sa ville, percé de l'airain aigu. Et mes trois frères que ma mère avait enfantés et que j'aimais, trouvèrent aussi leur jour fatal. Et tu ne me permettais point de pleurer quand le rapide Achilleus eut tué mon époux et renversé la ville du divin Minès. Et tu me disais que tu ferais de moi la jeune épouse du divin Achilleus, et que tu me conduirais sur tes nefs dans l'Aphtié pour y faire le festin nuptial au milieu des Myrmidones. Aussi toi qui étais si doux, je pleurerai toujours ta mort. » Elle parla ainsi en pleurant, et les autres jeunes femmes gémissaient, semblant pleurer sur Patroclos et déplorant leur propre misère. Et les princes vénérables des Achéens, réunis autour d'Achilleus, le suppliaient de manger, mais il ne le voulait pas. « Je vous conjure, si mes chers compagnons veulent m'écouter, de ne point m'ordonner de boire et de manger, car je suis en proie à une amère douleur. Je puis attendre jusqu'au coucher de Hélios. » Il parla ainsi et renvoya les autres rois, sauf les deux Atréides, le divin Odysseus, Nestor, Idoménéus et le vieux cavalier Phénix, qui restèrent pour charmer sa tristesse. Mais rien ne devait le consoler avant qu'il se fût jeté dans la mêlée sanglante. Et le souvenir renouvelait ses gémissements, et il disait : « Certes, autrefois, ô malheureux, le plus cher de mes compagnons, tu m'as prêté toi-même avec soin un excellent repas, quand les Achéens portaient la guerre lamentable aux Troyens dompteurs de chevaux. Et maintenant tu gis, percé par les reins, et mon cœur, plein du regret de ta mort, se refuse à toute nourriture. Je ne pourrais subir une douleur plus amère, même si j'apprenais la mort de mon père, qui peut-être dans l'Aphtié verse en ce moment des larmes, privé du secours de son fils, tandis que sur une terre étrangère, je combats les Troyens dompteurs de chevaux pour la cause de l'exécrable Hélène. Ou même, si je regrettais mon fils bien-aimé, qu'on élève à Skyros, Néoptolémos, semblable à un dieu, s'il vit encore. Autrefois, j'espérais dans mon cœur que je mourrais seul devant Troie, loin d'Argos fécond en chevaux, et que tu conduirais mon fils de Skyros vers l'Aphtié, sur ta nef rapide, et que tu lui remettrais mes domaines, mes serviteurs, et ma haute et grande demeure. Car je pense que Péléus n'existe plus, ou que s'il traîne un reste de vie, il attend, accablé par l'affreuse vieillesse, qu'on lui porte la triste nouvelle de ma mort. » Il parla ainsi en pleurant, et les princes vénérables gémirent, chacun se souvenant de ce qu'il avait laissé dans ses demeures. Et le Cronion, les voyant pleurer, fut saisi de compassion, et il dit à Athénée ces paroles ailées : « Ma fille, délaisses-tu déjà ce héros ? Achilleus, n'est-il plus rien dans ton esprit? Devant ses nefs aux antennes dressées, il est assis, gémissant sur son cher compagnon. Les autres mangent, et lui reste sans nourriture. Va, verse dans sa poitrine le nectar et la douce ambroisie, pour que la faim ne l'accable point. Et parlant ainsi, il excita Athénée déjà pleine d'ardeur. Et semblable à l'aigle marin au cri perçant, elle sauta de l'Ouranos dans l'éther. Et tandis que les Achéens s'armaient sous les tentes, elle versa dans la poitrine d'Achilleus le nectar et l'ambroisie désirable, pour que la faim mauvaise ne rompît pas ses genoux. Puis elle retourna dans la solide demeure de son père très puissant, et les Achéens se répandirent hors des nefs rapides. De même que les neiges épaisses volent dans l'air, refroidies par le souffle impétueux de l'éthéréen Boréas, de même, hors des nefs se répandaient les casques solides et resplendissants, et les boucliers bombés, et les cuirasses épaisses, et les lances de frêne. Et la splendeur en montait dans l'Ouranos, et toute la terre au loin riait de l'éclat de l'airain, et retentissait du trépignement des pieds des guerriers. Et au milieu d'eux s'armait le divin Achilleus, et ses dents grinçaient, et ses yeux flambaient comme le feu, et une affreuse douleur emplissait son cœur. Et furieux contre les Troyens, il se couvrit des armes que le dieu Héphaïstos lui avait faites. Et d'abord, il attacha autour de ses jambes par des agrafes d'argent les belles cnémides. Puis il couvrit sa poitrine de la cuirasse. Il suspendit l'épée d'airain au clou d'argent à ses épaules, et il saisit le bouclier immense et solide, d'où sortait une longue clarté, comme de Sélénée. De même que la splendeur d'un ardent incendie apparaît de loin, sur la mer aux matelots, et brûle dans un enclos solitaire au faîte des montagnes, tandis que les rapides tempêtes sur la mer poissonneuse les emportent loin de leurs amis. De même l'éclat du beau et solide bouclier d'Achilleus montait dans l'air. Et il mit sur sa tête le casque lourd, et le casque à crinière luisait comme un astre, et les crins d'or qu'Héphaïstos avait posés autour se mouvaient par masses. Et le divin Achilleus essaya ses armes, présents illustres, afin de voir si elles convenaient à ses membres. Et elles étaient comme des ailes qui enlevaient le prince des peuples. Et il retira de l'étui la lance paternelle, lourde, immense et solide, que ne pouvait soulever aucun des Achéens, et que seul Achilleus savait manier. La lance Péliade, que du fait du Pélios, Chiron avait apporté à Péléus pour le meurtre des héros. Et Automédon et Alcimos lièrent les chevaux aux joues avec de belles courroies. Ils leur mirent les freins dans la bouche, et ils raidirent les rênes vers le siège du char. Et Automédon y monta, saisissant d'une main habile le fouet brillant, et Achilleus y monta aussi, tout resplendissant sous ses armes, comme le matinal Hyperionade. Et il dit rudement aux chevaux de son père, « Xanthos et Balios, illustres enfants de peau d'argée, ramenez cette fois votre conducteur parmi les Danaïens, quand nous serons rassasiés du combat, et ne l'abandonnez point, mort comme Patroclos. » Et le cheval au pied rapide, Xanthos, lui parla sous le joug. Et il inclina la tête, et toute sa crinière, flottant autour du timon, tombait jusqu'à terre. Et la déesse errée aux bras blancs lui permit de parler. « Certes, nous te sauverons aujourd'hui, très brave Achilleus. Cependant, ton dernier jour approche. Ne nous en accuse point, mais le grand Zeus est la moire puissante. Ce n'est ni par notre lenteur, ni par notre lâcheté que les Troyens ont arraché tes armes des épaules de Patroclos. C'est le dieu excellent que l'Éto aux beaux cheveux a enfanté, qui, ayant tué le Ménoïtiade au premier rang, a donné la victoire à Hector. Quand notre course serait telle que le souffle de Zéphyros, le plus rapide des vents, tu n'en tomberais pas moins sous les coups d'un dieu et d'un homme. » Et comme il parlait, les Erinies arrêtèrent sa voix, et Achilleus au pied rapide lui répondit, furieux, « Xanthos, pourquoi m'annoncer la mort? Que t'importe? Je sais que ma destinée est de mourir ici, loin de mon père et de ma mère, mais je ne m'arrêterai qu'après avoir assouvi les Troyens de combat. » Il parla ainsi, et avec de grands cris, il poussa au premier rang les chevaux aux sabots massifs.